Shalom Ouvracha, Shalom Boker Tov, Shavua Tov à tous, c'est reparti, alors voilà, on est parti pour notre deuxième épisode historique sur la rétrospective de l'époque incroyable du Beit Sheni, du deuxième temple. Donc voilà, la semaine dernière, nous avons parlé de la première partie, donc de cette période-là, et nous l'avons appelée la période perse, avec les éléphants. Bon. C'est-à-dire, la vérité, c'est que les éléphants, on ne les a pas encore rencontrés en Perse, mais également en Afrique, l'homme échané, on ne va pas parler de ça maintenant. Et donc, nous étions arrivés à finalement expliquer quelles étaient les particularités de cette période-là, et nous avons parlé donc de la première période perse. Pour simplement faire le lien avec la semaine dernière et pouvoir continuer, aujourd'hui, nous allons essayer d'arriver des Perses jusqu'aux Grecs et voir ce qui s'est passé. Alors, faisons un tout petit rappel. T'as vu la qualité? Eh oui, il y a du matos. Il y a du nouveau matos, bien sûr. Donc, là, je suis un vrai YouTuber maintenant. T'as vu ou pas? Bekitsour, voilà la situation. On avait parlé des grands rois perses qui vont nous intéresser. On avait dit il y a Koresh, Cyrus. Ensuite, il va y avoir Cambysès, il ne nous intéresse pas trop. Dariavesh, Darius I. Ensuite, Achashverosh, Xerxès, Assuérus, même nom pour la même personne, et ensuite Artaxerxta ou Antaxerxès, Darius II. Besséder. Donc ça, ce sont les grands rois qui vont être importants pour nous à ce moment-là, parce qu'ils vont être les rois qui vont faire l'histoire qui nous intéresse. Alors, reprenons et comprenons comment est-ce qu'on va passer d'une époque à l'autre. On a dit, les Perses nous donnent la permission de revenir en Eretz Israël. Nous sommes en -538 et à ce moment-là, eh bien, il y a ce qu'on appelle la déclaration Koresh. Hatzarat Koresh ou la déclaration Cyrus, où Cyrus va donner la permission aux Juifs de revenir en Israël et reconstruire le Beth Amikdash. Alors, pour être très très honnête et complet, cette déclaration Koresh qui fait partie du Tanakh, puisqu'on la retrouve dans le livre de Ezra, eh bien, on l'a également retrouvé au niveau archéologique, ce qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que la déclaration Koresh, ça tient sur un morceau, une pierre comme ça, un cylindre de cette taille-là à peu près, sur lequel sont gravées plein de choses. Et retrouver un cylindre comme ça dans toutes les vestiges archéologiques qui puissaient avoir lieu à l'époque à Babylone, c'est absolument, et en Perse, à Babylone, que je raconte en Perse, c'est absolument incroyable. On a retrouvé la déclaration Cyrus, et pour être exact, elle est exactement comme celle qui a marqué dans Ezra, avec des trucs en plus. C'est-à-dire que nous, dans Ezra, on a l'impression que Cyrus n'a donné que la permission aux Juifs de revenir en Israël et construire leur temple. C'est pas que ça. Cyrus va donner la permission à tous les peuples qui ont été exilés par les Babyloniens de revenir dans leur pays et de reconstruire leur temple. Donc, eh bien, ça va aussi pour les Juifs, évidemment. Et donc, la déclaration Koresh va marquer, évidemment, un tournant pour le peuple juif. Comment ça, un tournant pour le peuple juif? Eh bien, tout simplement, à partir de ce moment-là, eh bien, ça y est, on peut retourner en Israël, recommencer notre vie à Jérusalem. Et là, eh bien, c'est une période absolument incroyable. C'est celle qui va lancer, comme on a dit, la période du Second Temple. Alors, qui est le chef du peuple juif à ce moment-là? Eh bien, quand on regarde dans le livre de Divrei Hayamim, eh bien, on va trouver quelqu'un qui est nommé par les Perses. Il s'appelle Hamelech Shmuzachar. On va dire ça plus simplement. Est-ce qu'il s'agit Behemed de Shem Etzer Ben Yehoyachin ou est-ce qu'il s'agit de Zerubbabel? Semble-t-il, c'est le même personnage. Donc, on va utiliser un autre, enfin, on va utiliser le nom qui est le plus connu, à savoir Zerubbabel, c'est celui qui va guider le peuple juif dans son retour en Israël. D'ailleurs, Zerubbabel fait partie de la famille de David Hamelech et ça va être très important parce que la première partie du deuxième temple montre un attachement très important à la notion de Yichus, c'est-à-dire de lignée familiale. Zerubbabel, vous le connaissez évidemment parce que vous avez lu bien sûr, le livre de Ezra, bien évidemment, le livre de Haggai, évidemment aussi. Vous êtes des fans du Tanakh, mais vous le connaissez également parce que vous chantez. Et oui, dans quelques jours, nous allons arriver à Hanouka et nous allons chanter Maoz Tzur. Si vous avez bien fait attention, Maoz Tzur Yeshuati, cette chanson de Hanouka, parle de chaque couplet parle d'un autre temps de notre histoire. Si le premier couplet parle de Pharaon, de quand on est censé se libérer de Pharaon, eh bien le deuxième couplet parle de Zerubbabel. Eh oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Kez Bavel, Zerubbabel, leket shivim noshati. Eh bien, Zerubbabel, c'est effectivement celui qui va réaccompagner l'arrivée du peuple juif, le retour du peuple juif en Israël. Quel est son statut à Zerubbabel? Il n'est évidemment pas roi, parce que l'empereur, le roi, c'est la Perse. Il est ce qu'on appelle Pécha. Pécha, en français, ça va devenir Pacha. Le Pacha, c'est le nom que porte c'est la fonction du gouverneur, si vous voulez, mis en place par les Perses. Et donc, Zerubbabel est Pécha, Pacha, sous le règne, de Dariavesh, de Darius I. Alors que Néhémia sera le Pacha, plus tard, sous le règne de Artachasta. Pour replacer les choses un petit peu dans leur contexte. Alors, les Juifs reviennent, il n'y a pas de problème. On recommence à mettre en place un Bet Amigdashouné. Un Bet Amigdashouné, oui, car à cette époque-là, eh bien, le Bet Amigdash est Katan Meod Meod. C'est d'ailleurs contre cela que va s'offusquer Haggai, Anavi, lorsqu'il dit au Bnei Israël, vous n'avez pas honte de vous occuper de construire vos maisons, machin, alors que le Bet Elohim, le Bet Amigdash, est Katan Chik Meod et pas très très important. Le Kohen Gadol, à cette époque-là, eh bien, commence par être Yehoshua ben Yehotzadak. Il fait partie de la famille de Tzadok à Kohen. Alors, je ne sais pas si ça vous parle énormément, mais il s'agit du Kohen Gadol à l'époque du roi David. Donc, on essaye vraiment de remettre en place, eh bien, un ordre juif tel qu'il était à l'époque du premier temple, dans cette période phare de David et Shlomo. Alors, c'est ce qu'on appelle tout ceci Shivat Zion, le retour du peuple juif en Israël. Alors, faut bien comprendre que lorsque Am Israël rentre en Israël à ce moment-là, c'est bien sympathique, mais il y a plein d'autres gens qui habitent en Israël à ce moment-là. Il y a plein d'autres peuples qui habitent sur ce territoire. Et oui, il n'y a pas que des Juifs, évidemment. On va trouver sur le littoral des gens qui vont être descendants des Philistins, ce qu'on avait appelé dans le livre de Néhémie des Ashdodim, qui habitent dans la région de Ashdod et de Ashkelon d'aujourd'hui. Nous avons les Phéniciens qui sont au nord du pays. Nous avons également, il donnera naissance aux Tzedoukim. Alors, oui, mais c'est pas le même. C'est-à-dire que le Tzadok de David n'est pas seul le Tzadok qui va donner naissance aux Tzedoukim. Ne pas se confondre. Les Tzedoukim vont arriver à la fin de la période du Second Temple. Et donc, c'est pas encore. C'est vrai qu'il viendra de la famille de Beth Tzadok, mais c'est pas le même Tzadok en question. Bevakasha. Construire les maisons et pas aussi sa maison, sans commentaire. Bah oui, tu comprends que toute ressemblance avec une situation actuelle serait purement fortuite, bien sûr, et involontaire. Et donc, nous avons au nord les Phéniciens, nous avons également les peuples voisins qui sont directement irrités du Tanakh. Nous avons Ammon, Moab, Édom. La Édoméa va être une province qui va être très importante, mais ça on le verra plus tard. Bekitsour, dans le Negev actuel, nous avons des peuples qui ont migré depuis la péninsule arabique. On ne parle pas encore d'islam, évidemment, mais ce sont ceux qui vont devenir les Nabatéens. Et nous avons également, dans le nord de la Judée, c'est-à-dire pas dans le nord d'Israël, pas dans ce qui est aujourd'hui le doigt de la Galilée, on a dit c'est les Phéniciens, mais au milieu, il y a un territoire qui s'appelle la Samarie, le Shomron. Eh bien, qui habite au Shomron à ce moment-là? Eh bien, on va retrouver ici des gens qu'on n'appellera pas encore des Shomronim. Ça viendra plus tard, le terme de Shomronim. Pour l'instant, on les appelle des Koutim. Ils viennent d'un peuple qui s'appelle Kout, qui est un peuple qui a été emmené ici de force lorsque les Assyriens, donc au 7e siècle avant l'ère chrétienne, ont conquis cette région de Shomron, ont détruit le royaume d'Israël et y ont emmené des peuples conquis. Ces peuples-là, c'était les Koutims. Ils ont pris les Juifs, ils les ont mis ailleurs, et les Koutims sont venus ici. Puisqu'ils ont habité pendant longtemps dans les terres de la Samarie, eh bien, plus tard, on va les appeler les Shomronim. OK? Les Shomronim, les Samaritains, habitent donc dans le Shomron. Vous comprenez donc ainsi que l'histoire qui nous est racontée dans les évangiles sur le bon Samaritain est une histoire qui est complètement, je vais dire fausse, mais fausse dans son appellation. C'est-à-dire que lorsque tu regardes l'histoire là-bas, tu te rends bien compte qu'il y avait un truc qui n'était pas cool chez les nouveaux chrétiens, c'était la notion d'Israël. Ils ne pouvaient pas intégrer la notion d'Israël. Pour eux, Israël, c'était forcément les pourris qui n'avaient pas accepté Jésus. Donc, quand tu vois l'histoire du bon Samaritain, eh ben, tu remets les choses dans leur contexte. L'histoire se passe dans ce qu'on appelle aujourd'hui Kvish Mispar Echad, c'est-à-dire la route qui mène de Jérusalem à la mer Morte, en plein milieu du territoire de Yehuda. Donc tu comprends bien que il n'y a pas un Chomroni qui habite là-bas, ça n'a rien à voir. Et donc comment est-ce que, pourquoi est-ce qu'on parle de Samaritain? Bah, simplement parce que dans l'histoire là-bas qui est marquée dans les évangiles, eh bien Jésus va rencontrer un Cohen qui ne va pas être sympa avec lui, il va rencontrer un Lévi qui ne va pas être sympa avec lui, et après il y a quoi? Cohen, Lévi? Ah, normalement c'est Israël qui va être sympa, mais on ne peut pas dire qu'il y a un Israël sympa, donc ça devient un Samaritain, ce qui est complètement un anachronisme et une erreur géographique. Mais ils sont plus à une contradiction près. Et donc, nous avons également en Israël, en Judée particulièrement, des Juifs. C'est-à-dire des Juifs qui ne sont pas revenus Beshivat Zion, mais qui ont toujours été là. OK ? Voilà un petit peu les forces en présence à l'époque du retour de Shivat Zion, de la période perse. Quand on fait le calcul de tous les Juifs qui sont revenus en Israël durant la période perse, eh bien, on va parler très exactement de 42 360 personnes qui reviennent en Israël, tel qu'il est marqué dans le livre de Ezra, chapitre 64. Donc, 42 000 personnes, 42 360, c'est peu. C'est très peu. Sur toute la période de la Shivat Zion, vous comprenez que la majorité des Juifs restent à Babylone, restent en Perse. À Jérusalem, on va parler de 8 000 personnes qui habitent, principalement là, évidemment, des Juifs. Et voilà un petit peu l'ambiance de cette époque-là. Alors, sous le roi perse Atarchasta, eh bien, c'est là que l'essor juif va grandir. Évidemment, les dirigeants du peuple juif à ce moment-là, eh bien, comme on a dit, c'est Ezra et Néhémia. Je ne sais pas si on l'a dit, mais maintenant je le dis. Ezra et Néhémia. Néhémia est le pacha, et donc le gouverneur politique, alors que Ezra est le rabbin. Je dis rabbin, mais j'aurais pu dire prophète, ou rabbin ou prophète. Ezra, c'est le moment où on passe de prophète à rabbin. C'est la fin de la prophétie, c'est pas très clair. Okay, dans le Talmud, on hésite. Même si, on va dire que non, Ezra, c'est un prophète, mais qui parle comme un rabbin. Nounou. À propos de Daniel, on se posera la question, est-ce qu'il est véritablement prophète ou pas? Ça, c'est un autre débat. Donc, Ezra et Néhémia sont les dirigeants l'un politique, l'autre spirituel. Ne pas oublier également Eliashiv. Eliashiv à Kohen Agadol, qui est de la maison de Tzadok, et qui est le Kohen Gadol à ce moment-là. Il y a une reconnaissance officielle de la Judée comme étant la Judée. C'est la première fois qu'on va appeler cet endroit-là Yahoud. C'est la Judée. Et à ce moment-là, Ezra et Néhémia, portés par la tolérance perse, vont commencer à faire énormément de réformes, révolutions, changements. Et en fait, c'est la grande partie de Shivat Zion de l'époque perse. Ezra, tout d'abord, va insuffler une nouvelle alia en Eretz Israël. Néhémia, quant à lui, va reconstruire les murailles de Jérusalem, qui va faire de cette ville non plus simplement une ville de troisième division, mais une véritable ville centrale fortifiée. Eh oui, tout à fait, il y a eu un level up au niveau de la qualité. Nachon, Baruch Hashem, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont fait confiance à ces shiurim et qui m'ont permis de level up, comme tu dis, et d'avoir une meilleure qualité, tant de vue que de son. Amen, Keni Ratzon, c'est tout ça grâce à vous. Quoi qu'il en soit, Ezra va mettre en place des takanot qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, Kriyat HaTorah Batsibour. Pas toutes les Kriyat HaTorah, il y en a certaines qui avaient déjà été mises en place par Moshe Rabbeinu. La traduction de la Torah en araméen et son explication, qui va déjà être mise en place à ce moment-là par Ezra. Il va y avoir un interdit qui ne vient pas de Ezra et Nehemia, qui était déjà dans la Torah, mais cette fois qui est, on va dire, politique, de se marier avec des gens qui ne font pas partie du peuple juif. C'est Ezra et Nehemia de concert qui vont faire cela ensemble. On va remettre en avant Shmirat HaShabbat VeHaChagim, qui avait été complètement oublié, et Nehemia va en faire une campagne politique, et il va y avoir également la remise en place de la Shemitah, grande nouveauté politique, mise en place par Nehemia. Évidemment, le Beth Amikdash est remis au goût du jour, on l'agrandit un petit peu, pas encore la folie, mais on l'agrandit, et on recommence à faire la Avodat Amikdash de manière ordonnée, claire, précise, comme il faut. Il y a plein de takanot, plein de directives de vie sociale qui sont mises en place et on met Jérusalem au centre de la vie juive. On va voir dans le livre de Ezra que, par exemple, à l'époque de Koresh, il y a une grande fête qui est organisée pour Sukkot. À l'époque de Dariavesh, eh bien, c'est là que c'est intéressant parce que pour la première fois, il va y avoir la fête de Hanouka. Quoi ? Hanouka ? On est chez les Perses. On n'a même pas encore parlé des Grecs. Quel rapport Hanouka ? Bah oui, quand tu regarderas le livre de Haggai Anavi, eh bien, c'est là-bas qu'on va voir qu'à l'époque du deuxième temple, il a bien fallu le reconstruire, le deuxième temple. Lorsque Zerubbabel construit le deuxième temple, le premier, le petit, le Katanchik, quel est le jour de l'inauguration du Baït Sheni, du deuxième temple ? Eh bien, c'était le 25 Kislev. Eh ben voilà. Voilà, l'origine du 25 qui se lève, c'est l'inauguration du second temple. On commence à comprendre ce qui va arriver à Hanouka. Je le garde un petit peu. Mais dites-vous bien que le 25 qui se lève, c'était l'inauguration du deuxième Beth Amikdash. À l'époque, donc, de Zerubbabel et de Haggai Anavi. Ok, très bien. Alors, on est en place. Et finalement, eh bien, la dernière partie de l'époque perse va se passer finalement de manière assez pépérouse. Il se passe pas grand-chose dans le monde, il se passe pas grand-chose non plus en Israël. Une période qui est quand même longue, hein, qui va durer près de 90 ans, où bah, les choses se passent. Entre moins 424 et moins 333, eh bien, les choses se passent tranquillement. J'ai dit, la grande nouveauté, c'est que eh bien, le pays, la région s'appelle la Judée. Ça y est, on n'a pas attendu ni les Grecs ni les Romains. Et, eh bien, c'est la période où sont aux commandes du peuple juif ce qu'on appelle Anshe Knesset Agedola. Il y a des pachas, mais ils ne sont pas forcément très prépondérants. Anshe Knesset Agedola, les membres de la Grande Assemblée d'Israël, et parmi eux, les derniers prophètes, eh bien, sont les dirigeants du peuple juif. Ok, très bien. Seulement, à ce moment-là, le monde change. Eh oui, le monde change parce qu'il y a un petit blondinet qui va naître là-bas en Macédoine. Eh oui, vous le savez, ce petit blondinet, il s'appelle Alexandre. Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine. En hébreu, on dit Alexander Mokdon. Mokdon, ça veut dire Macédoine. Et donc, Alexandre le Grand devient celui qui va chambouler le monde. D'abord, bon, il va conquérir un petit peu tout ce qui est autour de lui, la Grèce, tous les peuples grecs, ça va bas. D'ailleurs, il ne faudrait pas dire à Alexandre qu'il est grec. Ah non, parce que si tu dis à Alexandre qu'il est grec, il va mal le prendre. Alexandre, il est macédonien. Et pour lui, c'est au-dessus de la Grèce. C'est-à-dire, juste qu'on se remette dans... Nous, on parle de l'Empire grec. Mais en fait, ce n'est pas l'Empire grec, c'est l'Empire helléniste. On passe à une autre époque. Mais Alexandre est macédonien. Et donc Alexandre, il va commencer à conquérir, mais son véritable ennemi, c'est celui qui a infligé une défaite cruciale à son père, Philippe de Macédoine, à savoir Darius III. Darius III, il semblerait que ce soit le fils de Esther. Le petit-fils, excuse-moi, c'est temps pour moi. Le petit-fils de Esther, Darius II, étant le petit-fils de Esther et de Achashverosh, Darius III, petit-fils. Mais bon, on n'en parle pas trop. Bekitsour, oh oui, parce qu'on n'en parle pas trop, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé du tout. C'est mon erreur, autant pour moi, je m'excuse. Je reviens deux secondes en arrière, avant d'arriver à Alexandre. Non, parce que entre Zerubbabel et notre ami Ezra, c'est autant pour moi, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié, mais entre Zerubbabel et Ezra, donc si on revient dans nos rois, eh bien, entre la période, vous vous rappelez des noms des rois, hein, on a dit entre Koresh, Dariavesh et Atarchasta, il y a un bonhomme qui s'appelle Achashverosh. Faudrait pas l'oublier. La période de Pourim se passe entre la permission donnée par Koresh aux Juifs de revenir en Israël et le moment où Ezra se place et ça se passe tranquillement. Donc au milieu, il y a la période de Pourim avec Aman qui veut détruire le peuple juif. Faudrait quand même pas l'oublier cette histoire. Ok, on est dans une période où, comme on l'a dit, le retour en Israël est amorcé, mais la majorité des gens ne veulent pas venir. Ils vont un petit peu bouger de Babylone à la nouvelle ville centrale de l'Empire, à Shushan, à Suse, et c'est là-bas que il va y avoir l'histoire de Pourim. Donc remettre l'histoire de Pourim dans son contexte, c'est très important, parce que Achashverosh est un roi qui va annuler les propositions pro-juives de ses prédécesseurs, que ce soit Darius I ou Koresh, et il faudra attendre la suite, Darius II et III, pour calmer l'ambiance. Donc n'oublions pas que l'histoire de Pourim se replace dans un contexte historique. Comme ce n'est pas un cours sur Pourim, je ne vais pas parler maintenant. Quand on approchera de Pourim, je ferai sûrement un cours sur l'historique de Pourim. Donc je ne vais pas parler maintenant des combats qui ont opposé les Grecs à Mordechai et Aman, qui étaient eux-mêmes des généraux dans l'armée perse. Donc ça, je ne vais pas en parler maintenant. Et donc, je ne vais pas parler maintenant du combat de Marathon, du combat des Thermopyles. Tout ça, on verra quand on arrivera à côté de Pourim. Donc, quoi qu'il en soit, je reviens à mon histoire de Alexandre. Alexandre va donc conquérir et vers l'Est. Il part vers l'Est. Pour lui, c'est très important d'exploser l'Empire perse. Et donc, c'est ce qu'il va faire. L'Empire perse ne tiendra pas longtemps face à l'avancée d'Alexandre. Et lorsque Alexandre conquiert la Perse, eh bien, il continue à l'Est, mais également au Sud. C'est-à-dire qu'Alexandre veut avoir un contrôle sur la Méditerranée. Et donc, vers l'Est, il descend vers le Sud. Il va donc conquérir toute la région d'Israël, de l'Égypte, parce qu'il veut la mainmise sur la mer Méditerranée. Et donc, il arrive en Israël. Il faut bien comprendre que lorsque l'armée d'Alexandre arrive aux portes de Jérusalem, les amis, c'est la flip totale du côté juif. Parce que jusqu'à présent, comprenez-moi bien, jusqu'à présent, aucune ville n'a résisté à la marche d'Alexandre. Aucune. Lorsqu'Alexandre arrive devant une ville, il lève sa main, t'as à peu près 200 000 guerriers derrière lui, et il n'a plus qu'à faire comme ça, et ça veut dire, on y va. Et ben, trois jours plus tard, en général, il n'y a plus cette ville. Donc les Juifs qui habitent à Jérusalem derrière les murailles refaites par Néhémie, ils sont en stress complet. Et à ce moment-là, Alexandre arrive devant Jérusalem. Il a avec tous ses hommes derrière lui, mais il n'a pas pris tout le monde pour... Il y a à peu près 55 000 hommes derrière lui pour conquérir Jérusalem. Il lève la main et tout le monde attend qu'il la baisse et que c'est parti, on fonce sur Jérusalem. Mais à ce moment-là, les portes de la ville s'ouvrent. Les portes de la ville s'ouvrent, il y a une mishlachat, un petit groupe de juifs qui sortent, drapeaux blancs dans tous les sens, et plus ils se rapprochent, plus on ne comprend pas ce qui se passe dans les rangs de l'armée grecque. Le Kohen Gadol sort en habit de Kohen Gadol, qui est interdit par la halakha, mais semble-t-il que Pikuach Nefesh Doche Kol HaTorah Kula. Il sort avec ses habits de Kohen Gadol et il arrive à quelques mètres d'Alexandre. À ce moment-là, il s'agit d'un traumatisme dans l'armée grecque. Qu'est-ce qui se passe? Non seulement Alexandre ne fait pas comme ça, mais Alexandre baisse sa main, descend de son cheval Boucifal, son cheval noir imposant, il descend de son cheval et se prosterne devant ce juif. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans le monde entier, on se prosterne devant Alexandre. Alexandre se prosterne devant ce juif. Makara, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, si je vous dis l'histoire qui est mentionnée dans la Guémara, Vous allez me dire, ouais, mais les Juifs, c'est parti pris. Donc, on va prendre un livre d'histoire. Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, dans Kadmoniat à Yehudim, va raconter la rencontre. Et il dit comme ça, il y a la rencontre entre le Kohen Gadol à Yadoua et Alexandre. Le Kohen Gadol bien connu et Alexandre. Dans la Gemara, on va te dire, bah oui, c'est Shimon HaTzadik. C'est Shimon HaTzadik, ça correspond tout à fait en termes de datation. Shimon HaTzadik et le Kohen Gadol, c'est lui le chef du peuple juif à ce moment-là. Il est le dernier, si vous voulez, descendant de ce qu'on appelle Anshe Knesset HaGedola, et il rencontre Alexandre. Il rencontre Alexandre à ce moment-là. Donc Alexandre, on a dit, se prosterne devant lui, personne ne comprend. Et il dit de se relever et il explique à ses hommes, à ses généraux, que depuis qu'il est parti de Macédoine, à chaque fois qu'il part au combat, la veille, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se pose la question, comment vais-je réussir à conquérir, à battre mon ennemi? Et à chaque fois, il y a un personnage qui lui apparaît en rêve, une silhouette qui lui apparaît en rêve, qui lui dit, je te bénis et tu réussiras, grâce à mon mérite, tu réussiras ton combat. Eh bien, c'est lui. Et tout d'un coup, je me rends compte, c'est lui. C'est lui que je voyais dans mes rêves. C'est grâce à lui qu'on gagne tous nos combats. Pshhh. Il a fait méode. Donc, il se prosterne, tout va bien, on est content. Agave, entre parenthèses, il y a un petit livre qui s'appelle « Récit d'un maître ». Récit d'un maître qui a été écrit par un bonhomme qui s'appelle Clearchos. Alors, Clearchos, à mon avis, tu le connais pas. Mais Clearchos, c'est l'élève d'Aristote. Eh bien, Aristote était lui-même le précepteur d'Alexandre et il l'a accompagné dans beaucoup de ses voyages. Ainsi, Clearchos raconte que lorsqu'il arrive en Judée, en Eretz Israël, eh bien, il va y avoir une rencontre entre Aristote, Veyehudi, au nom de Simeone, c'est-à-dire un juif du nom de Shimon. Bon, remets les pièces du puzzle ensemble, t'as compris. Il y a Aristote qui rencontre Shimon HaTzadik. T'as compris l'idée. À ce moment-là, Clearchos raconte que l'entretien s'est passé très sympathique et que Aristote a été tellement impressionné de la sagesse, de la grandeur de ce juif appelé Shimon, qu'il a dit... C'est incroyable, on aurait presque pu penser qu'il était grec. Et là, cette phrase va nous faire rentrer dans l'ambiance grecque, dans l'ambiance helléniste. Il va falloir commencer à rentrer là-dedans petit à petit. Mais simplement, deux secondes pour terminer notre histoire. Eh bien, Shimon, Alexandre, rencontre se passe très bien. Et résultat des courses, Alexandre, eh bien, va tout de suite laisser non seulement Jérusalem sur pied, mais en plus de ça, eh bien, il va prendre fait et cause pour les Juifs. Si bien que Shimon HaTzadik, qui en ce moment, chef du peuple juif, a un problème avec les Shomronim, les Samaritains, comme on a dit, eh bien, va demander à Alexandre de s'occuper d'eux. Résultat des courses, bah, il va détruire le temple des Samaritains au Har Gerizim, au Mont Gerizim, et en reconnaissance de cela, eh bien, Shimon HaTzadik va donner un ordre à tout le peuple juif que cette année-là, tous les enfants qui vont naître, les garçons s'appelleront Alexandre et les filles s'appelleront Alexandra. À partir de ce moment-là, le nom Alexandre est rentré dans le peuple juif. Il faut vous rendre compte, on ne connaît pas beaucoup de juifs qui s'appellent Paro ou, Nabucodonosor, mais il y a beaucoup d'Alexandre. Parce qu'effectivement, les premiers contacts avec eux, avec Alexandre et avec le monde grec, eh bien, se passent a priori de manière très positive. J'ai dit a priori, on verra. Bekitsour, le Kohen Gadol est légitimé à ce moment-là comme étant le chef des Juifs. Il n'y a plus de Pacha. Il y a celui que Alexandre reconnaît comme étant le chef. Ici, le Kohen Gadol. Alors évidemment, tout ça, c'est bien gentil, mais en -323, Alexandre meurt dans ses conquêtes qu'il va faire jusqu'en Inde. Et le problème, c'est qu'il meurt sans héritier. Et donc, comme il meurt sans héritier, évidemment... Eh bien, ces généraux vont se disputer les miettes de ce qui reste. Et donc, eh bien, le royaume va être divisé en plusieurs parties. Ce qui nous intéresse pour nous, c'est la partie dirigée par la maison des Séleucides, Séleucos, qui va avoir comme capitale Antiochia, dans la Syrie actuelle. Et la maison des Ptolémées, Ptolémaos, qui va avoir comme capitale Alexandrie en Égypte. Vous comprenez tout de suite que Israël est au milieu de ces deux maisons qui se disputent sans cesse une hégémonie et un contrôle plus important. Et donc, eh bien, c'est tout naturellement que Israël va passer de main en main. C'est-à-dire que pendant les, on va dire, à peu près les 100 premières années de la domination grecque, on va dire des années moins 300 aux années moins 200, eh bien, c'est la maison des Ptolémées qui règne également sur Israël. Exactement, exactement. C'est une femme, j'aurais pas dit mieux. Part en Égypte, ça fait Alexandrie, Alexandra, exactement. Claude, eh bien, peut-être fier de toi. Quoi qu'il en soit, c'est la maison des Ptolémées qui va régner sur Israël pendant les 100 premières années. Entre parenthèses, la maison des Ptolémées, donc qui a comme capitale Alexandrie en Égypte, eh bien, la dernière reine des Ptolémées, en fait, la dernière reine de l'Égypte, la dernière pharaon d'Égypte, s'appellera Cléopâtre, mais ça, c'est une autre histoire, on verra plus tard, dans un autre, ça fera partie de la partie 4 ou 5 de Baïtcheni. En tout cas, ça, c'était la première partie. Dans cette période-là, eh bien, il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses. Par exemple, eh bien, nous allons avoir Ptolémée II Philadelphos, donc roi Ptolémée deuxième du nom, qui va non seulement toujours avoir un contact très positif avec les Juifs, mais il va également faire traduire la Torah en grec. C'est la fameuse Septante, Septuaginta, Targum Hashivim. On va y revenir dans quelques temps. Après cela, eh bien, à partir de moins 198, nous avons la maison des Séleucides, Séleucos, qui va conquérir une partie du territoire des Ptolémées et donc qui va devenir les patrons d'Israël. Alors, chez les Séleucides, c'est pas compliqué. Les rois, ils s'appellent soit Séleucide 1, 2, 3, 4, 5, soit Antiochus 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire soit Séleucos 1, 2, 3, 4, 5, soit Antiochus 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est pas compliqué. Hein. En l'occurrence, nous, celui qui va nous intéresser, c'est d'abord Antiochus 3. C'est pas celui de Hanouka, c'est Antiochus Megas, Antiochus le Grand, qui va être celui qui va conquérir Eretz Israël de la main des Ptolémées. Et à ce moment-là, ben les amis, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Antiochus III ne va pas continuer et va conquérir toute la maison des Ptolémées jusqu'à l'Égypte? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'a pas du tout envie de se prendre la tête avec un nouveau bonhomme qui est rentré dans l'histoire, qui pour l'instant est encore pas énorme, mais qui grandit à vue d'œil. Et celui qui est sur la Méditerranée, il est tout le temps en problème avec eux. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. Ces gens-là, ils s'appellent Rome, qui commencent à arriver. Mais ça, encore une fois, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, il s'arrête à Israël, il ne va pas jusqu'en Égypte. Mais à ce moment-là, eh bien, on peut commencer à parler, que ce soit à l'époque des Ptolémées ou à l'époque des Séleucides, eh bien, commence à arriver l'influence grecque en Eretz Israël. Ça y est, on est passé à une autre époque. Les Perses conquièrent des régions. Ils sont les patrons officiels, mais ils n'interviennent pas dans ce qui se passe à l'intérieur. Ils s'en fichent, ils ne viennent pas s'implanter dans ces régions. Ils ont envie de contrôler, d'avoir de l'argent, ce que tu veux, mais tu vas pas voir des villes perses à l'intérieur des régions conquises. On met un gouverneur qui, en général, fait partie du peuple qui a été conquis, comme on a dit, Zerubbabel, Ezra. Et donc, si tu veux, sous la domination perse, l'ambiance à Jérusalem, c'est une ambiance juive. Chez les Grecs, c'est complètement différent. Parce que l'hellénisation a pour idéal de dire « Vous êtes grec, vous ne le savez pas encore, je vais vous l'apprendre. » Et donc, l'hellénisation amène un changement énorme de culture. Eh oui, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que l'hellénisation ne se fait pas par la force. La conquête, oui, mais l'hellénisation, non. L'hellénisation, c'est d'abord savlanout, c'est-à-dire une tolérance ethnique et religieuse. Moi, je te laisse continuer. J'ai pas de problème. Va au Beth Amikdash, j'ai pas de problème. Je propose autre chose. Et c'est ça que va faire l'hellénisation. On propose autre chose. On va construire des temples grecs, des temples du Panthéon grec. On va construire également des villes. Et oui, on va pas seulement garder des légions, des soldats ici, mais on va y mettre également des civils. En Israël, par exemple, on va créer le Décapolis, 10 villes grecques nouvelles qui sont peuplées de Grecs. Celle qu'on connaît le plus, puisque c'est la seule qui est dans l'endroit d'Israël, les autres sont en Jordanie actuelle, mais Beth She'an, elle s'appelait Skitopolis. Et donc, ces régions-là, tout d'un coup, sont peuplées de Grecs. La langue officielle de la région devient le grec. En fait, pour être plus exact, le koiné, mais c'est le grec. À l'époque perse, on parle perse en perse. En Judée, on ne parle pas perse. Donc ici, l'hellénisation, c'est que non seulement on te propose une autre culture, mais on va petit à petit faire de toi, on te tolère, mais une minorité. Tout le monde commence à parler grec. C'est la langue internationale, c'est l'anglais de l'époque. Donc, bah toi, tu peux continuer à parler hébreu ou araméen, pas de problème. Mais plus personne ne va te comprendre. Donc, tu vas être obligé de te mettre au grec. Tu peux continuer à aller au Beth Amikdash, mais sache qu'à côté, il y a un nouveau stade qui vient d'être construit. Ça le fait quand même d'aller au stade. C'est sympa. Il y a un théâtre qui vient d'être construit. Ça se fait d'y aller. Il y a des thermes qui vont être construits. Ça se fait d'y aller. Et donc, petit à petit, eh bien, on va pas vraiment te laisser le choix. Tu as le choix, mais tu n'as pas le choix. Et petit à petit, eh bien, on va commencer à te mettre dans l'ambiance. On va même te dire que, bah attends, toi, tes origines sont mises en valeur. Puisque, comme j'ai dit, le Targum HaShivim, la traduction de la Torah en grec, montre qu'on va mettre une place d'honneur à ta Torah. Oui, bien sûr, la Torah, très important. On la met dans la grande bibliothèque d'Alexandrie, à côté d'Aristote et Platon. Pas de problème. Donc maintenant, on aimerait bien que tu nous fasses des cours aussi de Torah, mais en grec. Donc, petit à petit, petit à petit. Les différentes villes grecques sont dirigées par un des dieux du panthéon grec. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de Beth She'an, Skitopolis était sous la direction, sous la protection du dieu Dionysos. Dionysos, le dieu du vin dans la mythologie grecque. Intéressant de voir que lorsque les Grecs vont devenir romains, alors Dionysos va devenir Bacchus, pas de problème, mais c'est encore plus intéressant de voir que lorsque l'Empire romain va devenir chrétien, tout d'un coup, eh ben on va être obligé de coller à chaque ville un saint. Saint-Georges, Saint-Thomas, Saint-Truc, Saint-Machin, c'est des vestiges de la période mythologique, de la période idolâtre, où chaque ville avait son dieu protecteur. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Les Juifs qui habitent là, on leur fait rien, mais ils ne sont pas des citoyens de la cité. Dans ces nouvelles cités grecques, les Juifs ne sont pas des citoyens et ils ne le sont pas non plus dans les anciennes villes juives qui sont maintenant dirigées par les Grecs. Il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, tu peux rester juif sans problème, mais tu ne fais pas partie de la vie de la cité. Vous comprenez que tout ceci va petit à petit amener à une itiavnout, une hellénisation de la société juive, et ça va amener également, eh bien, les Juifs à commencer à se convertir, je sais pas comment on peut dire ça, à la culture grecque et à la religion du polythéisme grec, et ainsi de suite. Il faut comprendre que cette influence grecque, elle est partout, y compris au sein même de la Torah. Eh oui, il y a plein de choses qui sont des inventions grecques qui vont être prises chez nous, pour le meilleur et pour le pire. Alors pour le pire, on vient d'expliquer, mais également pour le meilleur. C'est-à-dire que Chachamim vont voir l'influence grecque et vont dire, bon, il y a des choses à prendre. On va juste leur donner un petit coup de juif. Par exemple, eh bien, la Ketouba, c'est une origine grecque. Le fait du contrat de mariage tel qu'on le voit ici, c'est une mitzvah des Rabbanan et qui nous a été importée directement des Grecs. L'Afikoman, c'est un terme grec. Le Sanhedrin, c'est un terme grec. OK ? Donc, il y a aussi une façon de prendre ce qui vient de l'extérieur qui n'est pas forcément négative. Le grand combat de cette époque-là, ça va être de savoir qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, plus on est riche, plus c'est cool d'utiliser les nouveautés grecques. Et donc, très vite, la civilisation, la population juive, eh bien, plus elle est aisée, plus elle devient mitiavenet. Et plus le peuple est le peuple, eh bien, il reste fidèle à ses croyances. Il n'empêche que petit à petit, c'est la majorité du peuple juif en Israël qui va s'héléniser. Lorsqu'on parle dans la guerre de Hanouka, on y viendra plus tard, mais lorsqu'on parle de Me'atim Moul Rabim, qu'on était peu nombreux face à plein, eh bien, on parle énormément des Mityavnim, des gens qui se sont convertis à l'hélénisme. Alors, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce moment-là ? Bah, pas grand-chose, c'est la situation. Voilà la situation à la veille de Hanouka. La situation va empirer, évidemment, lorsque, en moins 187, eh bien, arrive sur le trône des Séleucides Antiochus Arévii Epiphanes. Le Antiochus, le magnifique, non pas le magnifique, Epiphanes, le sage, c'est ça, qui va prendre les rênes de l'empire Séleucide. Et à ce moment-là, eh bien, Epiphanes, Antiochus IV, va être celui qui va commencer à faire des problèmes et qui va annuler la tolérance religieuse, la tolérance culturelle. Et c'est ce qui va amener finalement à la révolte de Hanouka, révolte que nous allons aborder la semaine prochaine, parce que ça sera Hanouka et que donc on va se garder Hanouka pour Hanouka. Donc, la suite au prochain épisode. À bientôt. À la semaine prochaine. Chazak u baruch.